Bienvenue à toutes et tous dans l'Énum, l'émission numéro 45. Salut tout le monde, c'est Mathieu. Je suis, comme toujours, très heureux d'allumer mon micro pour enregistrer un nouvel épisode du podcast de la rédaction des numériques. D'autant plus que je me trouve en compagnie de plusieurs gars sûrs de notre émission, puisque nous sommes en compagnie de Florian. Salut Florian.
Salut tout le monde, salut Mathieu, comment ça va?
Bah écoute, très bien, et toi?
Moi ça va super, merci.
Bien installé?
Ouais,
impeccable. Prêt pour une bonne émission. On est également avec Tanguy. Salut Tanguy.
Salut Mathieu, bonjour à tous.
Toi aussi, t'es bien installé, t'es prêt pour faire une belle émission?
Très bien installé, avec le wifi du boulot, ça devrait marcher vraiment.
Alors, on croise très fort les doigts. Et enfin, je suis très heureux d'avoir Benoît avec nous, le réalisateur de ce podcast, qui passe de l'autre côté aujourd'hui. Salut Benoît.
Salut tout le monde, coucou, je suis là, présent.
Alors, t'es au four et au moulin.
Exactement.
Et si on a toi, plus Florian et aussi Tanguy, des auditeurs peut-être qui nous écoutent régulièrement, commence à le voir venir, mais c'est de produits audio dont il va être question cette semaine, et plus particulièrement de la Sonos Roam.
Wow.
Vous appréciez mon accent anglais, comme à chaque
incroyable.
Fois.
America,
la
Roam,
quoi.
Yeah.
C'est la dernière venue dans la gamme du fabricant américain. Alors, on va évidemment débriefer le test de ce produit, mais également élargir un peu au marché des petites enceintes portables, et même vous proposer un point sur le marché de l'audio multi-room, qui est la grande spécialité de Sonos. C'est parti! Alors, la Sonos Roam, qu'est-ce que c'est donc? Eh bien, sachez que c'est la toute nouvelle enceinte de Sonos qui miniaturise son concept maison d'enceinte nomade qui était incarné jusqu'ici par la Sonos Move. Les gars de l'audio, vous m'arrêtez si je me trompe.
Jusque-là, tout va bien.
Alors, j'introduis d'emblée le prix, on va le dire, comme ça on va être débarrassé. Donc, cette Sonos Roam, elle a été officiellement annoncée début mars et maintenant elle est disponible, commercialisée au tarif conseillé de 179 euros TTC. Alors, j'ai deux questions en une, peut-être, pour lancer cette émission, chers collègues spécialistes. Est-ce que cette Sonos Roam, elle est bien positionnée par rapport à ses concurrentes? Et puis, quels sont ses principaux arguments pour s'imposer sur son marché? Je ne sais pas qui veut commencer.
Bah, je peux commencer,
Benoît,
parce que voilà, j'ai été...
C'est toi qui as fait le test.
Légère précision, l'enceinte sera disponible le 20 avril. Pour l'instant, elle est en précommande.
Ah,
voilà.
Ah, j'avais vu les prix chez les marchands, mais effectivement, j'avais pas fait gaffe, c'était pas de la livraison tout de suite.
Oui, c'est de la précommande.
Comme
très souvent chez Sonos.
Merci de cette précision.
180 euros, c'est... Donc, on est en face d'une enceinte vraiment portable. C'est fait 20 cm de largeur à peu près. 7 ou 8 cm de profondeur, enfin c'est pas une très très grande enceinte. Donc 180 euros, c'est la plus chère de notre comparatif actuellement. La plupart des produits tournent autour de 190, 100 euros, 120, parfois 150 euros. Elle est très chère, mais bon, elle a quand même des arguments qui sont, qui font un peu sa particularité par rapport aux autres enceintes, on va dire Bluetooth classiques, portables. Elle a surtout, évidemment, c'est un produit Sonos, donc il y a un aspect connecté qui est très 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 fort dans cette enceinte là. Et du coup, il y a tout, je vais dire entre guillemets, un écosystème logiciel qui fait donc la force de Sonos, qui est intégré dans cette enceinte là. Et très honnêtement, voilà, c'est comme toujours avec Sonos, ça a déjà fait ses preuves sur tous les autres produits. On a beaucoup de possibilités supplémentaires connectées. Et du coup, ça fait que l'enceinte est ultra polyvalente en termes d'usage. Et elle est aussi super facile à prendre en main.
C'est marrant parce qu'il y a un petit paradoxe dans ce que tu dis, parce que on dit qu'à l'utilisation Sonos, c'est toujours hyper simple, on va dire.
Ouais.
Sauf que, paradoxalement, il n'y a pas beaucoup de connectiques.
Ouais, j'allais justement en parler dans les arguments de l'enceinte. C'est que... En fait, on a une enceinte qui est... Donc voilà, il y a beaucoup de possibilités connectées. Mais en termes de connectique, c'est un peu comme le look, c'est le minimalisme. On n'a qu'un port USB-C à l'arrière qui ne sert qu'à recharger l'enceinte. Et donc, il n'y a pas de possibilité de connexion analogique filaire. Donc, il n'y a pas d'entrée mini jack, encore moins de SPDIF, tout ça. Enfin, vous pouvez tout oublier, il n'y a que ça. Pareil, il y a le Bluetooth qui est intégré, parce qu'évidemment, c'est une enceinte portable Bluetooth. Et il n'y a pas de multipoint. Donc, on ne peut pas connecter son enceinte à deux appareils en simultané, voire trois. Ça, ce n'est pas possible.
Il faudra à chaque fois réappairer en fait, son téléphone. téléphone. Ou
voilà, si vous devez changer d'appareil, exactement, faut relancer l'appairage Bluetooth qui se fait très facilement, mais faudra le faire manuellement. Sinon, voilà, il y a aussi un aspect baroudeur aussi de l'enceinte. Ça, c'est une première pour Sonos parce que la Move dont tu parlais tout à l'heure, c'était une enceinte alors déjà transportable, donc bien plus lourde et un peu plus grosse, enfin, plus grosse aussi. Mais elle était pas, enfin, elle était résistante aussi, mais pas aussi baroudeuse que la Roam, qui est IP67 et surtout la fabrication, il y a rien à dire là-dessus, elle est très solide, c'est très robuste. Vous pouvez la plonger dans l'eau, il n'y a pas de souci non plus. Donc,
ce que
voilà.
Tu as fait, d'ailleurs, j'ai vu dans le test, il y a une photo.
Bon, alors ça, c'est pour montrer pour le test, mais voilà, j'ai utilisé plusieurs fois dans d'autres situations aussi. Et bah, pour le coup, il n'y a pas de souci, il faut juste bien prendre soin de la sécher intégralement pour retrouver les performances sonores d'origine. Et puis surtout, éviter de la reconnecter en USB quand le connecteur est tout humide, ce n'est pas forcément super. Donc voilà, et puis... voilà, je disais donc ces avantages, c'est les trucs, tout l'aspect connecté, et puis aussi ces performances sonores, qui sont d'habitude chez Sonos aussi. En fait, il y a une sorte de continuité sur tous les produits, quel que soit leur format, où le rendu est homogène par rapport aux autres produits, c'est-à-dire que même si on a une enceinte qui est compacte, on a quand même des basses qui sont, on va dire, flattées. Bon, alors évidemment, on n'est pas sur une enceinte de grand gabarit, donc ça va pas être extrêmement profond, mais très honnêtement, on a une belle présence du grave pour ce genre de format. On a un bon équilibre aussi des basses jusqu'aux plus hautes fréquences, une puissance qui est très correcte, là encore par rapport au gabarit de la bestiole. Et puis, donc voilà, c'est assez polyvalent en termes d'écoute. Alors, c'est pas toujours ultra précis, ultra détaillé, et puis la scène sonore est un petit peu compacte sur ce produit-là, mais très honnêtement, c'est une valeur sûre.
Donc, il y a forcément un truc qui me vient en tête, c'est tout ça, on a parlé du prix du produit, et là on parle de sa sonorité, et il y a un produit qui fait un peu référence, on va dire, sur ce marché des petites enceintes nomades, et comme ça, c'est la Bose Soundlink Mini 2, qui est, elle, pour le coup, à peu près, je crois, dans les mêmes tarifs, voire peut-être un tout petit peu moins cher, ça dépend des marchands, mais dont on a souvent loué, que ce soit chez les numériques ou partout, en fait, tout le monde te dira toujours, la Soundlink Mini 2, c'est incroyable d'avoir un son, on va dire, aussi bon en mettant ce qu'on veut derrière bon, mais toi, dans un aussi petit gabarit, est-ce que du coup, cette Sonos Roam, elle arrive à faire jeu égal avec cette enceinte Bose ou pas?
Non. Alors, d'accord. Pour reprendre le prix rapidement de la Soundlink, est un produit qui est quand même... alors, je crois qu'on l'a testé en 2015. Je crois que
ça commence à remonter,
si je ne me trompe pas. Donc, c'est un produit qui est vieux, mais qui est toujours vivant, et pour de bonnes raisons, parce que c'est un produit qui est... Alors, c'est un produit qui n'est pas autant baroudeur que la Roam, puisque la Roam, voilà, IP67, etc., waterproof, la Bose Soundlink Mini 2, c'est pas du tout le cas. Par contre, il y a un petit avantage sympa, c'est qu'on peut encore remplacer la batterie dedans. Et c'est généralement le truc qui faille un peu avec le temps.
Qui s'use.
Voilà. Mais en termes de son, pour pas trop m'écarter de la question, c'est la Soundlink est encore un peu devant. En termes juste de reproduction de la dynamique, en équilibre, c'est un poil mieux aussi, et puis la précision est un peu meilleure aussi sur la Sonos, sur la Bose, et c'est ce qui fait qu'elle est encore devant à l'heure actuelle.
Ok, donc on a évoqué la sonorité de ce produit, sa fabrication qui est très bonne, son utilisation qui est, on y reviendra après dans l'univers Sonos, avec, comme tu l'as dit, d'un point de vue logiciel, setup et tout ça. Peut-être un petit mot sur, avant de passer à autre chose, sur l'autonomie, qui est quand même un point important d'enceinte qu'on va transporter avec soi.
L'autonomie, là, c'est un produit qui est connecté, donc alors ils ont quand même plus ou moins bien fait les choses, c'est-à-dire que quelle que soit la façon dont on utilise l'enceinte, en tout cas en termes de connectivité, il n'y a pas trop de répercussions. Est à peu près à... La promesse est à 10 heures. C'est pas énorme. Okay. C'est dans la moyenne basse de ce qu'on peut faire sur les enceintes portables de ce gabarit-là, j'entends. Qu'on soit en Bluetooth ou en Wi-Fi, il n'y a pas trop de répercussions. C'est surtout le volume, comme d'habitude, qui va jouer, le volume d'écoute qui va jouer sur l'autonomie. On va arriver à 8 heures, 8 heures et demie quand on commence à écouter un peu fort avec tout activé. En revanche, il y a un petit point. Alors bon, ça.
Ce qui reste bien suffisant. Hein. Enfin,
oui, c'est suffisant pour une écoute d'une journée, tout ça. La recherche se fait à peu près en 2 heures, donc c'est assez rapide. Il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Il y a juste un petit point. Bon, là, à l'heure où on enregistre le podcast, et je pense pendant quelques semaines, il y a toujours un petit truc qui est encore un petit souci. C'est-à-dire que l'enceinte est connectée, elle est compatible et intègre, du fait que ce soit l'écosystème Sonos, les assistants vocaux, donc Alexa et Google Assistant, mais on y reviendra plus en détail. Le truc, c'est que quand l'un des deux est activé, enfin surtout sur Google Assistant, parce que je crois que j'ai vraiment beaucoup testé avec Google Assistant, quand il est activé sur l'enceinte, ça a tendance à pomper pas mal sur la durée d'utilisation.
Sur la batterie, ouais.
Et surtout, en fait, ça empêche l'enceinte de se mettre en veille toute seule quand elle n'est pas utilisée. C'est-à-dire elle est toujours allumée, mais elle se met en veille automatiquement pour avoir à peu près 10 jours d'utilisation, enfin 10 jours de prolongation de la durée de batterie quand elle n'est pas utilisée. Donc quand il y a l'assistant, en fait, il y a le réveil de l'assistant qui empêche cette mise en veille, et bah, pour le coup, la batterie, elles font un
beaucoup
peu...
Moins...
Elles font toutes seules, en fait. Et donc ça, c'est un petit truc auquel ils ont bien identifié le souci, et du coup, il faut vraiment éteindre, parce que c'est possible sur l'enceinte, pas comme sur beaucoup d'enceintes Sonos, on peut éteindre vraiment l'enceinte. Et là, du
l'assistant.
Coup,
okay.
Non, carrément l'enceinte.
Ah oui, on peut éteindre
carrément
l'enceinte. Ah oui, t'éteins l'enceinte, quand comme ça, t'es sûr qu'elle ne perd pas de batterie.
Voilà, et quand t'as besoin de le réutiliser, l'assistant, tu rallumes l'enceinte. Pas super intuitif, mais bon.
Il y a un petit point sur l'argent, parce que je sais que Florian aime ça, hein, toujours.
J'adore, oui, effectivement, c'est ma grande passion.
Il y a un truc qui m'a fait un peu tiquer, parce que bon, on parle d'une enceinte qui est quand même à 180 ouais. euros, effectivement. Et il y a un truc très utile, c'est le petit chargeur, enfin le petit pied qui permet de poser l'enceinte dessus et de la charger en sans fil, je crois.
Ouais, chi, ouais.
Qui lui est, ouais, en chi, et qui lui est vendu assez cher, je crois. 40 balles, 39 euros. Donc moi je trouve toujours ça un petit
ouais,
peu...
Ouais, c'est ça. Alors je crois que c'est ça le prix. Hein. Pour le coup, nous, pour notre exemplaire de test, on ne l'avait pas. Donc j'ai fait 100.
Okay. Et ouais, non,
après,
mais toi,
c'est parfaitement standard.
C'est
donc n'importe
ce que
quel chargeur
dire,
sans fil, en fait, fonctionnera.
D'accord, n'importe quelle base de chargement, même pour ton téléphone, etc.,
ouais.
Tu poses l'enceinte
ouais,
voilà. dessus, elle va se recharger.
Après, d'accord. Oui, l'intérêt du modèle Sonos, c'est que le truc est aimanté, comme ça, l'enceinte, elle s'aligne parfaitement, machin. Bon, est-ce que ça mérite vraiment de claquer 40 balles pour ça? Je sais pas.
Non,
bon,
voilà. Ça fait cher pour le socle chi, mais bon, voilà.
Moi, j'ai une question sur la qualité audio, ça vaut quoi par rapport à une Sonos One?
Oh, ça boxe pas dans la même catégorie, parce que
c'est pas comparable,
gabarit, enfin le volume de l'enceinte est pas le même. Donc,
et du coup, quand tu as du multi-room et que tu mets celle-là dans un truc multi-room, du coup, ça donne quoi? C'est pas top, du coup.
Quand tu mets la room dans un...
Ouais.
Disons que... Alors, on y reviendra plus en détail s'il le faut, mais alors déjà, la Sonos Room ne peut pas être utilisée... on peut la coupler avec d'autres enceintes, hein, y a pas de souci là-dessus, mais elle peut pas être utilisée, par exemple, genre en surround sur un système 5.1. Je sais qu'on m'a posé la question, parce que Sonos fait du multi-room et du multicanal. On ne peut pas l'utiliser en tant que satellite arrière, ça c'est pas possible. Par contre, non, elle n'a pas trop à rougir. Évidemment, la puissance n'est pas du tout la même qu'une Sonos One ou qu'une Move, par exemple. Mais très honnêtement, non, c'est très bien pour une petite pièce, après, etc. Il n'y a pas de souci, tu mets ça dans une salle de bain, une cuisine et tout.
Après, la façon dont l'enceinte est vendue par Sonos, elle n'a pas du tout vocation à remplacer une enceinte sédentaire, en fait. Il y a même tout un délire, une pub qu'ils font sur le fait qu'il y a un système qui permet, en fait, quand tu es en train d'écouter de la musique dans ton jardin ou dehors ou je sais pas où, et que tu rentres chez toi, tu peux très facilement rebalancer le son de ce que tu es en train d'écouter sur ta room. Tu peux, en appuyant sur un seul bouton, le rebalancer sur ton installation domestique.
Sur ton multi-room. Ouais.
Donc
ouais.
Voilà, l'objectif, c'est clairement pas que la room remplace la Sonos One ou n'importe quelle autre enceinte de Sonos.
Par contre, la Move, elle s'intègre mieux et c'est plus une enceinte.
Ouais, mais c'est parce que elle est un peu. Pour le coup, en fait, elle était en termes d'usage, elle était à cheval entre un usage domestique et on va dire entre guillemets nomade. Et pour le coup, la Home, comme disait Florian, c'est pas du tout le cas. C'est vraiment une enceinte qui est vraiment faite pour être emmenée dehors. Si tu vas à la plage, si tu vas en forêt, etc., tu la prends, il n'y a pas de souci. La Move, c'est lourd, c'est assez gros. C'est pas super toujours pratique à utiliser, donc c'est pas la même Même enceinte, même type bon, enceinte.
Au final, cette enceinte, elle a été gratifiée d'une note de 4 étoiles oui. hein, sur les numériques, au final. C'est plutôt honnête. C'est plutôt, oui. du coup, un produit de ce qu'on dit là qu'on va recommander. Il y a mieux. Il y a quelques enceintes qui font mieux, notamment la Soundlink Mini 2 dont on a parlé en termes de son. Après, en termes de fabrication, ou évidemment, pour les gens qui ont déjà un écosystème Sonos et qui vont vouloir ajouter une petite enceinte portable, forcément, la partie logicielle va faire la différence. Voilà, moi je prends mon cas, je vais vous donner mon cas perso. Toi, j'ai deux Sonos One qui sont couplés en stéréo dans mon salon. Et je regardais j'ai une Soundlink Mini dans ma cuisine et ça m'embête de pas qu'elle soit pas sur le même réseau, tu vois, d'enceinte. Donc je me dis qu'avec cette room dans ma cuisine, j'aurais la possibilité effectivement de balancer le son du salon à la cuisine facilement via l'appli. Et puis
tu es très exactement dans la cible visée par Sonos en fait, hein, très simplement.
Clairement. C'est... Et puis je me dis comme ça, si je vais au parc avec les gamins à un moment que je vais emmener l'enceinte, j'ai juste à la prendre dans ma poche ou dans ma sacoche et c'est parti quoi. Donc je pense que ouais, ils ont dû m'espionner, je sais pas comment, mais ils se sont dit ce produit va lui plaire. Maintenant qu'on a dit tout ça sur cette enceinte, j'ai envie qu'on s'intéresse un peu justement à la marque, à Sonos. C'est une marque qui a jamais été réputée pour avoir une offre très pléthorique, au contraire d'ailleurs. Et il se trouve finalement qu'en enchaînant les sorties de nouveaux produits sur un rythme un peu annuel, voire un peu plus rapide, se retrouve tout de même aujourd'hui avec... Alors j'ai regardé son catalogue rapidement en préparant l'émission. Il y a 4 enceintes sans fil, il y a la Roam dont on vient de parler, il y a la Move aussi dont on a parlé, la One et la 5, parce que l'enceinte, la 3 qu'ils avaient, elle a disparu.
Ouais,
elle.
C'est ça.
Donc ils ont 4 enceintes sans fil, il y a 2 barres de son, il y a la Beam et la Arc un peu plus haut de gamme, et ils ont un caisson qui est le Sub. Et avec tout ça, ça commence à faire une offre, je trouve, assez complète. Enfin, vous allez me dire ce que vous en pensez. D'autant plus que le gros avantage de Sonos, on a commencé à l'évoquer un peu avant, c'est qu'on peut créer des ensembles d'enceintes un peu comme on veut avec l'application. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça marche et si c'est facile, si c'est cool, si ça fonctionne bien?
Vas-y,
Vas-y.
En fait, c'est marrant parce que Pour mettre directement les pieds dans le plat, on a souvent pu dire de Sonos que c'est en quelque sorte le Apple du monde de l'audio. Mm-hmm. Et je pense que ça n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui. La force de Sonos, effectivement, c'est qu'ils ont un catalogue qui, comme tu l'as dit, effectivement, il y a une variété de choix de produits que tu peux prendre chez eux qui est assez élevée. Maintenant, il n'y a pas énormément de références, en fait. Ils ont un peu une enceinte pour chaque usage, mm-hmm. en substance. Mais là-dedans, ce qui est confortable quand tu prends du Sonos, c'est justement que tu as cette certitude que tout va être très simple à utiliser ensemble. Que voilà, tout va fonctionner ensemble, tout va s'interconnecter, tout va utiliser la même application, le même système, les mêmes comptes en ligne, tout ça. Et de ce point de vue-là, c'est quand même un écosystème qui est super agréable à utiliser. Et Sonos a été bien sûr aussi un des pionniers, je crois qu'on peut même dire le pionnier de l'audio multi-room, mm-hmm. donc la possibilité en fait d'avoir plein d'enceintes connectées chez soi sur lesquelles on va pouvoir diffuser un son unique en fait. En gros, tu peux décider que tu as envie d'écouter la radio pendant que tu es en train de faire ton ménage, tu vas balancer la même radio sur toutes les enceintes de ta maison, tu peux mm-hmm. faire ça. Si par contre, à un moment, tu as envie de... Voilà, il y a quelqu'un qui est dans la chambre et quelqu'un d'autre qui est dans le salon et ils ont envie d'écouter deux choses différentes, on peut le faire aussi, il n'y a pas de souci. Et de ce point de vue-là, ils sont sur un écosystème logiciel qui a été en évolution constante depuis les tout premiers jours. Alors même s'il y a eu une petite rupture il n'y a pas longtemps, ils sont passés sur le système S2, oui. On y reviendra en fin d'émission. Mais malgré tout, il y a une continuité qui est très très claire en fait entre la première version et la deuxième version. Ça n'a pas du tout été une révolution. Et depuis tout ce temps qu'ils sont là, Sonos, ça fait combien de temps qu'ils sont sur le marché maintenant? Ça va faire 15 ans bientôt,
ouais,
un truc comme ça. Ils ont eu le temps de perfectionner leur truc comme absolument aucun autre concurrent. Et dans la catégorie écosystème audio connecté, ils ont de très 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 loin le système qui est à la fois le plus puissant, avec lequel tu peux faire le plus de choses, et le plus simple et le plus agréable à utiliser.
Ouais. C'est marrant ce que tu dis, le parallèle avec Apple, parce que j'ai l'impression que c'est quand t'achètes un, par exemple, t'achètes un iPhone, c'est ton premier appareil Apple, et bien après tu vas être tenté de prendre le MacBook qui va avec, l'Apple TV, parce que tu dis, il n'y a rien de plus simple en fait que de rester tout chez Apple. Et là c'est pareil, en fait, t'achètes une première enceinte, tu te rends compte que c'est cool, ça marche bien, t'en achètes une deuxième, et après tu dis, ok, bah, je fais toute ma.
C'est exactement ça. Quoi. Et en fait, c'est ce côté paradoxal, parce que bah, de la même le parallèle avec Apple se continue. Le truc qu'on va reprocher souvent à Sonos, c'est son côté fermé. C'est le côté, un appareil Sonos, ça marche avec d'autres appareils Sonos et rien d'autre. Et non seulement ça, mais en plus, toujours dans le parallèle avec Apple, il y a un peu cette tendance chez Sonos à, entre guillemets, dire aux consommateurs, à vouloir dire aux consommateurs comment ils vont utiliser leur enceinte. En gros, c'est pas toi qui vas acheter une enceinte Sonos et dire « Ouais, moi, j'aurais bien envie de pouvoir la brancher en mini jack. » Non, non. C'est une enceinte connectée, donc tu la connectes à ton service de streaming, n'importe lequel. Et voilà, c'est un peu nous qui dictons comment tu vas utiliser notre enceinte. Donc de ce point de vue-là, tu pourrais croire que bah, ça va être des enceintes qui vont être pénibles à utiliser. Sauf qu'en fait, non, il y a justement ce confort que tu as, à savoir que si tu as commencé à investir dans l'écosystème Sonos, tu vas pouvoir à l'avenir continuer à acheter des enceintes Sonos sans jamais avoir te posé la moindre question de compatibilité, de est-ce que je vais avoir besoin de réapprendre à me servir d'un truc. Non, tout fonctionne de la même manière, avec la même application. Et ouais, quelque part, t'as ce côté, je suis heureux de m'enfermer là-dedans parce que je sais que tout va marcher, en fait.
Et ils ont l'avantage d'avoir des produits, je trouve, hein, en tout cas, qui sont, alors certes, un peu, c'est pas vraiment du haut de gamme, tu vois, c'est-à-dire que c'est du moyen de gamme plus. C'est pas non plus inaccessible. Il y a des enceintes très chères chez eux, mais tu peux te faire un pack de, je sais pas, de Sonos One, etc., qui sont à des prix corrects. Après, le Sub, je crois qu'il reste assez cher.
Le Sub, c'est extrêmement cher, quand même. Ouais.
Voilà, le Sub et l'Arc, qui sont des produits très chers.
Bah, y a vraiment les deux exceptions, c'est ça, c'est l'Arc. Ouais. Donc, c'est l'Arc, c'est leur barre de son de cinéma pour resituer.
Ouais, c'est ça. Et du coup, je connais quand même pas mal de gens qui font des installations qui sont très correctes à base de une beam et deux one en voie arrière. Et tu vois, ça marche plutôt bien.
C'est très bien.
Et d'ailleurs, ça me permet d'enchaîner sur ma prochaine question, parce que en fait, ils permettent de faire comme ça un peu un truc sur mesure chez toi. C'est hyper efficace en point de vue d'installation, hyper simple à utiliser. Mais ce que je me demandais, c'est est-ce que ça leur permet aussi d'être compétitif d'un point de vue audio ? Parce que ça, c'est intéressant aussi, tu vois, quelqu'un qui... Il y a le côté pratique du système, mais est-ce qu'on va avoir en audio quelque chose d'aussi chiadé, d'aussi bon en termes de sonorité que, je sais pas, un vrai home cinéma dédié pour quelqu'un qui cherche à faire ça, ou un excellent ensemble stéréo pour quelqu'un qui veut juste écouter de la musique ? Est-ce qu'ils arrivent à être très bons quand même?
Pour le home cinéma, je pense que Florian est encore mieux calé que moi parce qu'il a eu l'occasion de tester la BIM et l'Arc. Du coup, je pense que je vais le laisser répondre.
Ouais, bah du coup, effectivement, la BIM et l'Arc, en fait, qui, quelque part, représentent très bien les deux faces de Sonos, en fait. c'est-à-dire que sur tout ce qui est, justement, ces produits un peu, entre gros guillemets, parce qu'ils restent quand même relativement onéreux, mais de masse, vraiment, ils sont vraiment pas mal, en fait. C'est vraiment, tu sais, c'est du produit audio qui, c'est pas de la grande hi-fi, voilà, ça va pas émoustiller les audiophiles de tous bords, mais ça sonne, juste ça sonne bien, en fait, c'est du son qui marche, qui est polyvalent, et avec lequel tu vas pas te poser de questions, tu vas juste kiffer, écouter ta musique, et puis voilà, ça sera peut-être pas le plus grand son de l'univers, mais ça suffit largement, d'autant plus qu'ils ont leur système de calibration TruePlay. Alors, qui existe en deux versions, malheureusement, tu as certaines versions sur lesquelles qui vont utiliser pour la calibration acoustique de l'enceinte, donc en fait, faire en sorte que l'enceinte ait vraiment un comportement acoustique qui soit le mieux adapté possible aux caractéristiques acoustiques de la pièce dans laquelle tu as installé ton enceinte, ce qui, l'air de rien, est très important pour avoir un bon son dans une installation domestique. Alors, le problème, c'est que la plupart de leurs enceintes domestiques utilisent une calibration qui utilise le micro de ton téléphone, mais pas n'importe quel téléphone. Seulement un iPhone.
Voilà, un iPhone, voilà. Ça refait parallèle.
C'est très dommage, malheureusement.
Les gus sous Android, allez-vous faire voir.
C'est un Android, voilà, ça ne te concerne pas. Et par contre, sur leurs deux enceintes portables et transportables, donc, que sont la Move et la Roam, ils ont un système auto-TruePlay. Donc ce coup-ci, c'est carrément des micros intégrés sur l'enceinte directement qui permettent à l'enceinte de se calibrer en temps réel, en fait. Donc même quand tu la déplaces, elle va automatiquement se recalibrer en même temps qu'elle diffuse de la musique, ça marche ma foi très bien. Et cool, on espère ça, ouais. que ce système auto-trouplet, du coup, ils vont essayer de le généraliser à l'ensemble de leur gamme à l'avenir, parce que c'est quand même autrement plus pratique que de devoir absolument avoir un iPhone pour pouvoir calibrer son enceinte. Mais du coup, pour revenir donc à ta question de départ, donc oui, donc sur les produits qui sont dans la gamme de la Beam, en fait. Donc la Beam, qui, pour situer, est une barre de son compacte qui coûte entre 400 et 450 euros. Sur ces gammes de produits-là, ils ont quelque chose qui est très bien.
Et, t'en as pour ton argent, de ce que j'ai compris, t'en as pour ton argent.
Voilà. Et par contre, effectivement, il y a à peu près un an, ils ont lancé cette Sonos Arc, qui pour le coup était vraiment une tentative d'aller taquiner le haut de gamme dans le home cinéma. Donc la Sonos Arc, pour le coup, c'est une barre de son beaucoup plus large, beaucoup plus encombrante que la Beam, mais qui est compatible Dolby Atmos, qui prétend faire un surround virtuel, machin, vraiment... Te faire du super son home cinéma, et pour le coup c'est beaucoup moins réussi.
Okay.
Elle coûte quand même je sais même plus, c'est 800 ou 900 euros, c'est donc voilà, ça commence à être très très cher. Et pour ce tarif là chez les concurrents, notamment Samsung, t'as des choses qui évidemment auront beaucoup moins de fonctions connectées, mais alors par contre niveau qualité sonore, c'est vraiment un autre monde, c'est vraiment vraiment un autre monde.
Okay.
Donc voilà, ouais, il y a ces deux faces à la pièce. Il faut se renseigner malgré tout quand on veut acheter une enceinte Sonos, parce que voilà, toutes ne se valent pas du point de vue des performances audio pures.
Ok, et sur de l'écoute de musique en stéréo, par exemple, si je me prends, j'ai un peu d'argent, je me prends deux Sonos 5 et je les mets en stéréo dans ma pièce, j'ai l'équivalent de ce que je vais trouver avec un bon ampli et deux bonnes enceintes, Benoît ?
Bon, j'irai pas jusque-là. Alors, je ferai juste un tout petit, rappel sur l'auto-trouplé, ouais. Qui n'était pas si ouf que ça sur la Roam. Il marchait quand même pas mal sur la Move, mais sur la Roam, c'était pas incroyable, quoi. Genre, j'ai pas été époustouflé par le système. C'est-à-dire que, en fait, j'ai l'impression que quand on commence à revenir à des formats d'enceinte plus compacts, c'est quand même pas mal du tout. Alors, non, c'est comme disait Florian, on sera pas sur de la hi-fi incroyable. Là, pour le coup, si tu fais une comparaison avec une enceinte...
Ce que nous a dit Flo sur le home cinéma, ça se voit aussi.
C'est-à-dire que tu ne pourras pas taquiner un ampli plus deux enceintes bibliothèque qui sont de bonnes enceintes de bibliothèque. C'est en termes de précision, toujours, hein, c'est comme ça. C'est pas incroyable. Par contre, en termes de praticité, rapport taille, performance, volume, la One est un excellent exemple d'enceinte qui fait extrêmement bien son boulot, tout en restant compact et tout. Non, franchement, ça, par exemple, c'est un bon truc. Et il y a aussi un truc aussi dont on n'a pas parlé, c'est la collaboration avec IKEA, les enceintes Symphonis.
Ah oui, c'est vrai, au fait.
Alors, la lampe est moche.
La lampe enceinte.
La lampe, c'est pas le truc le plus passe-partout, c'est pas le truc le plus universel en termes de design, donc c'est pas le truc que tu peux caler facilement. Puis bon, voilà, pour les gens qui aiment bien la belle déco, il faut être honnête, c'est pas de la super belle déco, hein, à mon avis. Par contre, l'étagère, moi je trouve que je la trouve vraiment chouette. C'est une enceinte slash étagère, enfin, que vous pouvez utiliser si vous voulez comme une étagère, et qui est à 100 euros. Et pour le coup, bah, ça donne un petit peu du goût de Sonos en termes de logiciel et tout, tout en restant un produit en termes d'audio qui sonne vraiment pas mal, quoi. 100 euros en plus.
Tu peux faire du multi-room mais pas cher.
Voilà, c'est ça.
Et puis là, on est effectivement sur un produit à 100 euros, comme disait Florent. Voilà. On est vraiment sur un produit masse vendu chez IKEA. C'est ça. Et je sais pas si elle s'approche de la Sonos One, mais elle doit pas être très loin, hein, en termes de...
Ouais, c'est pas tout à fait au niveau, mais elle est pas loin.
Ouais,
pas
très loin,
quoi. Et pour le coup, ouais, c'est carrément honnête. C'est juste qu'après, bon, c'est pas une belle construction en aluminium, c'est du plastique autour et tout, mais... Enfin, voilà, je trouve que c'est... Voilà, pour quelqu'un qui, comme disait Tanguy, veut goûter au multi-room à moindre frais, avec un truc qui sonne vraiment pas mal du tout, qu'on met ça dans une chambre, ou même pas loin d'une bibliothèque et tout, c'est pas mal. Franchement, c'est pas
Et puis là, pour le coup, pour Sonos, c'est tout bénef, parce qu'on l'a dit, quand tu mets un pied dans leur écosystème, après, t'as envie d'en avoir plus. Et là, c'est parfait pour un truc à 100 euros qui est disponible chez IKEA. Il n'y a pas mieux pour s'infiltrer chez les gens.
Exactement. Du coup, moi, j'ai une petite question. Il y a quoi comme autre système multi-room un peu en concurrent?
Il y en a beaucoup. Chez les concurrents.
Chaque marque fait un peu son truc, non ?
Ouais, ouais. Alors, il y a des systèmes fermés et des systèmes plus ouverts. Je continue, du coup. Je laisserai Florian rajouter des infos s'il le faut. Mais on a Libraton, qui fait des enceintes un peu proches de. Certaines enceintes qui sont un peu proches de celles que fait Sonos, qu'on a cité, donc la Move et la Roam. On a Samsung, qui en fait depuis un bon bout de temps.
Samsung, ils ont plus ou moins laissé tomber leur écosystème.
Voilà, eux, c'est...
Enfin, non, mais de toute façon, on va pas refaire toutes les marques parce que là, je pense qu'on va pas avoir le temps.
Beaucoup,
Parce que oui, en gros, effectivement, il y a beaucoup de marques qui ont leur propre système, ou du moins qui ont tenté de lancer leur propre système et qui l'ont abandonné entre temps. Parmi les tentatives intéressantes qu'on peut citer, il y a quand même l'écosystème DTS Play-Fi, qui pour le coup essayait vraiment d'être un truc un peu universel, ouais. En fait, qu'ils allaient pouvoir licencier à plein de marques pour que voilà, tu puisses avoir une enceinte Marshall et puis une enceinte Samsung et puis une enceinte. Je donne des marques au pif.
Et les faire et collaborer
de,
en multi-room.
De plein de marques différentes et les faire collaborer dans le même écosystème multi-room. Malheureusement, ça n'a pas super bien marché non plus, d'autant plus que l'écosystème en question était vraiment pas super agréable à utiliser. Mais voilà, il y a beaucoup de gens qui ont essayé de faire du Sonos et bon, disons-le franchement, il n'y a personne qui y arrive.
Personne qui y arrive.
Moi, perso, j'utilise. Moi, perso, j'utilise le truc Amazon. En fait, tu peux lier des enceintes, mais en fait, c'est limité aux enceintes Amazon. En fait, donc en fait, tu perds tout l'intérêt donc du truc parce que tu peux pas lier. Enfin, c'est que les échos en fait. Donc, si t'as une barre de son qui est compatible Alexa, elle rentre pas en fait dans le multiroom Amazon. Donc, c'est
il faut avoir que des enceintes enfin, Amazon Echo.
Mais Google, ça, par ouais. contre, c'est Chromecast. Du coup, tu peux faire du multiroom avec ça. Donc, c'est un peu plus universel. C'est paradoxalement.
Mais... D'accord.
Ouais. Mais ça marche pas trop.
Ouais, sauf que les enceintes Chromecast, il y en a pas beaucoup, je crois. Il y a des enceintes avec assistant, mais des fois, il y a pas.
J'ai l'impression qu'il y en a quand même beaucoup plus que celles qui sont juste limitées D'accord. à l'environnement Amazon. Juste les échos, il y en a pas beaucoup, quoi. Donc, ouais, c'est. Puis c'est toujours encore une fois, c'est pas ce qu'on peut expérimenter avec du Sonos. C'est pas pour leur faire de la pub, mais très objectivement, c'est vraiment.
Oui, non, mais clairement.
C'est vraiment le ouf, quoi.
Ouais, Sonos, c'est quand même une marque qui globalement, hein, jouit d'une très bonne notoriété, on va dire, mais qui a quand même eu des petits coups de chaud l'année dernière, qui a traversé deux grosses polémiques. Alors d'abord, ils ont annoncé la fin de support de produits qui étaient très vieux, qu'ils appelaient Legacy, qui sont des produits qui sont sortis il y a plus de 10 ans, et qui étaient devenus, pour eux, comme tu l'as dit Florian, ils améliorent toujours leur logiciel, donc c'était devenu difficile à intégrer ces produits à l'écosystème actuel, et ils avaient décidé de les sortir, et puis quelques mois plus tard, ils ont expliqué que les vieilles enceintes qu'on pouvait abandonner dans le cadre d'un programme de mise à niveau qui s'appelle Trade Up, elles seraient tout simplement briquées, rendues inutilisables de manière artificielle par une mise à jour du logiciel. Alors écologiquement, à chaque fois, ils se sont pris, c'est très mal passé. Alors finalement, dans un cas comme dans l'autre, ils ont fini par rétro-pédaler en assouplissant ces mesures. Est-ce que vous pensez que la marque elle a souffert de ça, ou est-ce que c'est finalement des polémiques que nous on relaie parce que ça nous intéresse, mais que le client lambda il fait pas attention à tout ça?
La marque a forcément, je veux dire, nous voilà, si on s'en est fait le relais, c'est parce qu'il y a des gens que ça a choqué, donc quelque part elle en a forcément un petit peu pâti. Après, elle a quand même rétro-pédalé assez vite là-dessus. Je sais plus ce que ça a été le délai, mais en gros c'était un mois, deux mois, quelque chose comme ça, donc c'était vraiment pas très très long. Je sais pas si au niveau du grand public ça a fait tant d'histoires, enfin s'ils en ont tellement entendu parler que ça en fait. Mais quelque part, je pense que justement ça prouve en fait, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure par rapport au fait que c'est le Apple de l'audio. C'est justement le fait que tu vois, c'est une mécanique d'interopérabilité constante entre les différentes enceintes du constructeur qui est tellement bien huilée que dès qu'il y a un truc qui va se mettre là-dedans, ça va faire hurler. Ce qui est une bonne chose en soi, d'autant plus que c'est malheureusement un marché dans lequel toutes les enceintes vont avoir une durée de vie, une durée d'utilisation qui va avoir tendance à être courte, ne serait-ce que parce que le monde de l'audio connecté est encore en évolution permanente. L'audio connecté d'aujourd'hui, c'est pas l'audio connecté d'il y a 10 ans. Et il y a plein de raisons qui font que... tu vois, donc après leur rétro-pédalage, aujourd'hui, ce que tu constates, c'est que les enceintes qui auraient dû être briquées et qui finalement peuvent continuer, en fait. C'est justement pour ça qu'ils ont séparé leur système. Maintenant, tu as les enceintes qui sont sous Sonos S1, comme ça s'appelle maintenant, qui est donc l'ancien système de Sonos, celui qui aurait dû être abandonné et que finalement ils ont conservé. Et puis tu as le Sonos S2, qui pour le coup est ce qui prévoyait de continuer à faire dès le départ. Et donc les enceintes qui sont sur Sonos S2, c'est toutes les enceintes qu'ils avaient prévu de continuer à supporter,
ouais.
À prendre en charge, pardon. Et quand tu remarques, quand tu regardes la liste en fait des enceintes Sonos aujourd'hui qui prennent en charge le système Sonos S2, ben en gros, c'est quasiment toutes leurs enceintes qu'ils ont sorties depuis 2011.
Depuis 10 ans. Ouais.
Et alors évidemment, là, on peut partir en mode c'était mieux avant et se dire que bah, mais des enceintifies quand même à la grande époque, on pouvait les garder 30 ans, les léguer à ses enfants, tout ça. Voilà, malheureusement, quelque part, les enceintes aujourd'hui, et surtout les enceintes connectées, bah, c'est devenu des ordinateurs comme les autres. Et au bout de 10 ans, c'est obsolète.
Ouais, c'est ça.
Et il suffit, tu vois, aujourd'hui, il y a le simple fait que une enceinte connectée, les assistants vocaux ont totalement redéfini ce qu'on attend d'une enceinte connectée. Et finalement, je pense que pour la vaste majorité des gens aujourd'hui, quand tu vas acheter une enceinte connectée domestique, ça va être dans le but de pouvoir la piloter à la voix. Donc ça, Sonos l'a parfaitement compris. Ils ont d'ailleurs été le tout premier constructeur au monde à sortir une enceinte connectée qui intégrait à la fois Alexa et Google
Assistant.
Ouais,
c'est ça, ils ont les deux.
Effectivement. Et toujours l'un des seuls d'ailleurs.
Et toujours l'un des seuls. Donc, et donc voilà, aujourd'hui, c'est vraiment, c'est une, aussi devenu une des, comment dire, une des signatures des produits Sonos, qui est qu'ils ils intègrent vraiment les assistants. Donc quand je dis qu'ils intègrent, c'est-à-dire qu'il y a des micros sur les enceintes qui te permettent de t'adresser directement à l'assistant. C'est pas, tu peux pas juste piloter l'enceinte par l'assistant. Mmh. Non, non, l'assistant est inclus dans l'enceinte. Et je sais plus sur quoi j'étais parti. Mais...
Non, mais il pense même aux gens que ça peut, à qui ça peut faire peur, parce qu'il y a aussi de la Sonos One SL qui est la même enceinte mais sans ce micro.
Ouais.
Pour les gens qui auraient peur, tu vois, d'être écoutés, etc. Donc ils ont vraiment, là, ils visent tout le monde. Alexa, mais du coup,
je me rappelle ce que c'était mon chemin de pensée. Donc pour revenir sur la question de l'obsolescence, machin, de est-ce qu'ils ont souffert de ça, bah, au final, je pense pas qu'ils ont beaucoup souffert, et au contraire, ils pourraient même quelque part aujourd'hui se présenter un peu comme un élève modèle, parce que des enceintes connectées qui datent de 2011, 2012, 2013, qui sont encore parfaitement soutenues aujourd'hui par leurs constructeurs, je peux te dire qu'à part chez Sonos, il n'y en a pas. Il y en a nulle part.
Et encore un argument à la Apple qui te dit qu'effectivement, un téléphone Exactement. Qui est sorti il y a 5 ans et dont on met à jour le système d'exploitation, ça n'existe que chez eux.
Exactement.
Oh là là, le lien entre les deux marques.
C'est vraiment, c'est deux marques, deux marques jumelles, hein, vraiment.
Ok. Bon, toi, Tanguy, je te vois là un peu perplexe dans ta webcam. Les enceintes Sonos, ça t'intéresse ou pas? Tu serais motivé
bien,
pour avoir un écosystème comme ça, entièrement
bah,
chez
disons
toi
que le problème de l'écosystème, c'est que t'es bloqué, quoi. Moi, le truc qui était bien avec Amazon, c'est qu'en fait, j'ai un Amazon Input que j'ai branché à des vieilles enceintes connectées. Du coup, ça, tu peux connecter en fait n'importe quelles enceintes. Le vrai problème, c'est que je pensais qu'en prenant d'autres enceintes, notamment des barres de son qui étaient compatibles avec ça, j'allais pouvoir créer un multi-room. En fait, c'est pas possible.
Mais en fait, c'est-à-dire qu'il faut que l'enceinte soit compatible non seulement Alexa, mais aussi Alexa Cast, qui sont vraiment deux choses différentes.
D'accord.
Et en fait, le problème, c'est que tout le monde parle d'Alexa, personne ne parle d'Alexa Cast. Et c'est dommage parce que, ouais, effectivement, ça définit quand même comment tu peux utiliser ton enceinte derrière, quoi.
Et en fait, bon, bah, c'est les méandres de la domotique, mais la barre de son, par exemple, quand je demande à Alexa d'envoyer le son vers la barre de son, il me dit la barre de son n'est pas reconnue.
Elle est muette.
Par contre, je peux aller quand même Spotify Connect, mais Alexa ne veut pas envoyer le son. Enfin, c'est un délire, quoi. C'est bienvenue dans la technique.
En termes d'enceinte, Tanguy ne veut pas être enfermé dans une marque. Par contre, en termes de téléphone et d'ordinateur, ça ne le dérange pas d'être chez Apple du tout.
Exactement.
On a l'exemple parfait.
Il y viendra peut-être. Bon, en tout cas, moi,
les enceintes, j'aime bien le jack et le Bluetooth, c'est universel.
Ouais. Moi, vous l'avez compris, je suis chez Sonos et du coup, cette nouvelle room dont on parlait, sur laquelle on a lancé l'émission, m'intéresse bien. Je fais partie des premières personnes à avoir cliqué sur le test de Benoît.
Oh là là, je t'en remercie. Ça me touche.
J'ai l'impression qu'on a fait un peu le tour de ce qu'on pouvait dire de ce produit, de la marque, de son fonctionnement qui est assez unique, de tout ça. Est-ce que vous avez des choses à ajouter, vous? Parce que moi, j'ai l'impression qu'on a bien fait notre travail.
Non, je pense qu'on a carrément fait le tour. Après, voilà, n'hésitez pas à lire le test de la room pour voir un peu toutes les alternatives sympas qu'on peut trouver, ne serait-ce que même en Bluetooth tout court et qui sonnent vraiment cool. Enfin, y a de quoi faire, il y a du choix pour tous les usages et tous les besoins.
Voilà. Yes. Bon, bah écoute, alors si c'est bon, je vais conclure cette émission en remerciant tout le monde. J'adore ce. Et puis en plus, là, je peux te remercier en vrai, Benoît, parce que t'es avec
oui
nous.
Oui, incroyable.
Alors merci, Benoît, d'avoir participé à cette émission et mais de l'avoir enregistré et de la mixer et de faire tout ça.
L'homme orchestre.
Merci évidemment à Florian et Tanguy aussi de.
Bah, de et merci nous avoir à toi, Mathieu.
De rien.
Merci à toi, Mathieu.
Et bah, de rien, ça fait toujours plaisir. Merci à nos auditeurs, j'allais dire nos lecteurs. Non, nos auditeurs.
Et aussi aux lecteurs, quand même.
Et oui, merci à toi, public.
À tout le monde.
C'est toi le meilleur.
Merci à toi, public. Voilà, toutes les semaines, qui prend, j'espère, un grand plaisir à nous écouter et à suivre cette émission. En tout cas, nous, on fera un plaisir à la faire. On la fera encore la semaine prochaine. On vous donne rendez-vous, du coup, la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Et puis, ciao tout le monde.
Ciao, ciao.
Salut, salut.
Salut, salut.